Bonsoir et bienvenue à tous. C'est un plaisir d'être ensemble pour louer Dieu, pour partager le repas du Seigneur et aussi pour nous nourrir de la parole de Dieu. Et ce soir, on va être dans Matthieu chapitre 10, les versets 5 à 15. Matthieu chapitre 10, les versets 5 à 15. On va continuer ce qu'on avait commencé donc la semaine passée avec Brady, qui était l'appel des 12 disciples ou les 12 apôtres. Et ce que nous allons voir ce soir, c'est non pas leur appel, mais leur envoi par Jésus. Je me souviens quand j'étais à l'université, c'était ma troisième année, et j'avais participé à beaucoup de cours de maths, et j'étais même répétiteur de maths pour les sessions de devoirs avec les élèves. Mais un de mes professeurs m'a appelé pendant donc un de ces moments, les heures du bureau, on discutait d'un projet que je faisais, et puis il a dit, je vais être loin la semaine prochaine, jeudi, est-ce que tu peux assurer une des classes pour moi? Et bien sûr, vu que c'était un de mes répondants, j'allais pas dire non, parce que quand un professeur dit, faites quelque chose, s'il vous plaît, on dit bien sûr, on le fait. Mais c'était très stressant de devoir se mettre devant une classe. Alors c'était des étudiants en première année, d'accord, mais de se mettre devant une classe et puis d'enseigner comme si on était le prof, même si c'était il avait donné toutes les notes à l'avance et c'était quelque chose de vraiment très simple à voir. C'est une chose de regarder et de participer à des centaines de classes à l'école universitaire, mais c'est vraiment autre chose d'enseigner, d'accord, et on est vraiment stressé. C'est une chose de suivre et de regarder les maîtres, c'est autre chose de devoir faire cela à leur place. Et les disciples vont se trouver dans cette situation lorsqu'ils vont être envoyés. Parce que depuis le début du ministère de Jésus, il est celui qui prêche, il est celui qui fait des miracles et qui va de ville en village, en Galilée, en proclamant le royaume de Dieu. Mais dans le texte que nous allons voir ce soir, ce travail va maintenant passer aux disciples qui vont participer à cette mission. Et donc on lit Matthieu chapitre 10 et versets 5 à 15. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Dans ce passage, quand on regarde la structure de l'évangile en général, nous voyons qu'on arrive dans la deuxième série de discours que nous avons de Jésus. Dans l'évangile selon Matthieu, nous avons en fait cinq séries de discours distincts qui sont données, qui ont eu une formule, pardon, d'introduction et de conclusion qui sont similaires. Les deux plus importants, c'est bien sûr le sermon sur la montagne que vous connaissez bien, et le cinquième discours qui sera les menaces contre les pharisiens et les chefs du jugement qui vient. Mais le deuxième, c'est ici une série de discours de Jésus au sujet de l'envoi des apôtres, de la mission et aussi de comment le monde va répondre et réagir aux disciples de Christ. Et une chose qu'il nous faut savoir parce qu'on va regarder une série de discours à la suite, c'est que Jésus n'a pas prononcé toutes ses paroles l'une après l'autre. Donc ce qu'on voit au verset 5 à 15, c'est un discours. Au verset 16 et suivant, c'est encore un autre et on verra plusieurs. Nous savons que ici, Matthieu donc a mis tous les enseignements du même thème ensemble de Jésus. Parce que quand on compare par exemple avec l'évangile selon Marc ou l'évangile selon Luc, nous voyons que c'était des enseignements qui donnent à des moments différents. Et on va, sans aller dans les détails, on regardera ça un peu plus la semaine prochaine. C'est important de le savoir parce que nous verrons qu'il y a des contextes différents. Juste pour vous donner un petit exemple dans le passage ici, nous voyons que Jésus dit de ne pas aller vers les païens. Mais plus tard dans le chapitre, il parlera de ce que les disciples doivent faire lorsqu'ils sont face à des païens. Et la raison, c'est que Matthieu ici nous donne plusieurs discours différents, et c'est comme ça qu'il structure l'évangile. Mais dans ce premier envoi, nous voyons une situation particulière, qui est Jésus qui envoie les 12 pour proclamer la venue proche du royaume des cieux dans les villes et villages israélites ou juives, probablement de la Galilée principalement. Et ce qu'on va faire, c'est simplement juste quelques explications des commandements de Jésus, des ordres que Jésus donne, quelques clarifications et ensuite quelques constats, parce qu'il y a des choses que nous pouvons appliquer aussi à notre vie. Que fait Jésus dans ce discours avec les 12? La première chose que nous devons souligner, c'est que Jésus envoie les disciples. Et en fait, c'est la seule fois dans cet évangile qu'on appelle les disciples les apôtres. Okay. Le mot apôtre, c'est pas un mot français, c'est tiré directement du grec, et ça signifie les envoyés. D'accord. Et ici, Jésus donc envoie les envoyés. Et ici, Jésus est en train de répondre à un besoin qui était constaté au début, à la fin du chapitre 9. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Jésus a dit que Israël, c'était comme des brebis perdues, et puis il dit au verset 37, donc c'est Matthieu 9, 37 et 38. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus dit à ses disciples, « Il y a besoin de personnes pour proclamer le royaume, priez pour ces personnes. » Mais tout de suite après, il va désigner et envoyer aussi à ces gens-là. Donc Jésus répond aussi à ce besoin et à cette prière. Il les envoie parce que le peuple n'a pas de berger. Et Jésus donne la réponse. Les 12 vont représenter deux choses dans la mission que Dieu leur donne. Premièrement, ce sont les émissaires, les envoyés de Jésus, qui vont fidèlement reproduire sa mission. Plus tard, dans l'évangile, nous verrons que Jésus leur donne une deuxième mission. Non seulement ils doivent appeler, mais ils vont aussi être ceux qui doivent diriger. Et ils seront les nouveaux patriarches, en quelque sorte. Vous savez, il y avait 12 patriarches dans l'Ancien Testament. Il y aura ces 12 apôtres qui vont avoir l'autorité sur Israël d'un point de vue spirituel. Et ça, c'est dans Matthieu 19. Et donc, Jésus, à travers les apôtres, va répondre aux deux problèmes qui sont face à lui. Premièrement, qu'il n'y a pas assez de personnes pour proclamer le message de l'évangile. Et donc, il envoie les apôtres. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a pas des bons bergers pour les guider. Et de nouveau, il va former les apôtres. Mais nous voyons ce soir, donc, leur envoi. Il leur donne ce commandement qui devrait nous surprendre. D'accord. Mais de nouveau, il faut le placer dans son contexte. Il dit « n'allez pas vers les païens » ou littéralement « ne partez pas sur le chemin des nations ». D'accord. Les nations, c'est le terme donc des non-juifs qui a été utilisé par les Israélites. Il ne faut même pas aller sur la route qui va chez eux. Et ça, c'est important parce que la Galilée de l'époque, ce n'était pas une zone homogène au niveau de la population. C'était un mélange de villes païennes, de villes grecques, et puis de villes juives. Et ce qu'ils devaient faire, c'était de se limiter surtout aux villages. En fait, c'était des petits bleds juives et peut-être les villes comme Capernaum, mais d'éviter d'aller dans les villes grecques qui se trouvaient dans la région. Il y avait tellement de païens dans la région qu'on appelle dans Matthieu chapitre 4 la Galilée des païens. D'accord. Mais Jésus dit, évitez-les, n'allez pas vers eux. Et dit aussi, n'allez pas vers les Samaritains. Donc, c'est quand même quelque chose de particulier. Et j'aimerais déjà qu'on souligne le contraste marqué de ce que nous avons ici avec la fin de l'évangile. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, voici ce que Jésus va dire. Il va dire « Faites des disciples des nations ou des païens ». D'accord ? C'est le même mot. Il dit « Allez dans le monde entier ». Et donc, il y a vraiment un contraste intentionnel entre ce que Jésus enseigne ici et ce qu'il dira à la fin. Ceci devrait nous rappeler que l'enseignement de Jésus, celui qui donne dans Matthieu 10, c'est un caractère unique dans la circonstance dans laquelle elle est donnée. Il ne parle pas de la mission universelle de l'Église, mais plutôt d'un besoin ponctuel que les apôtres vont remplir à cette époque. Après la résurrection, après l'ascension, la mission s'ouvre au monde entier et pas uniquement à Israël. Mais à ce moment-ci, il y a cette mission particulière. Et quand on regarde la vie de Jésus, nous voyons effectivement que dans son ministère public, il donnera toujours la priorité à ses frères et sœurs juifs, et ses frères et sœurs israélites dans la foi en Dieu. Même dans Matthieu 15, verset 24, il reprend les mêmes paroles en parlant à une femme cananéenne. Il dit « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». De nouveau, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une espérance pour les non-juifs, mais plutôt qu'il y a une étape supplémentaire qui doit être franchie. Jésus doit accomplir les promesses de Dieu à Israël. Il doit ressusciter d'entre les morts, aller s'asseoir dans les cieux, à la droite du Père, pour que la mission aux païens puisse être vraiment entamée. Jusque-là, Jésus va préparer l'évangélisation des nations, mais jamais vraiment commencer une campagne d'évangélisation ou de conversion des non-païens, des non-croyants. On pense, par exemple, au récit du serviteur du centenier. Vous vous souvenez, son serviteur, c'est un païen, et Jésus dira, mais quelle foi plus grande que la foi des Israélites même. Il va chez les païens pour guérir des démoniaques à Gadaré. Au chapitre 15, comme j'ai mentionné, il va guérir la fille de la femme cananéenne. Et dans de très nombreuses paraboles, il va parler aussi donc de l'entrée des païens. Mais ce n'est pas encore le moment au point de vue pratique. La mission n'a pas encore commencé. Et ce schéma donc de priorité donnée aux juifs avant les non-juifs se retrouve dans la vie de Jésus et même dans les débuts de l'Église. Nous souvenons que l'apôtre Paul, il était donc celui qui devait aller prêcher aux non-juifs ou aux païens. Mais même lui, il allait commencer toujours à prêcher aux Israélites, à ceux qui étaient héritiers des promesses. Dans Romains 1, chapitre 16, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et c'est ce que nous voyons ici. Jésus qui dit « Il y a un message pour Israël qu'ils doivent entendre avant de pouvoir le prêcher aux nations. » Et d'ailleurs, c'est probablement le cas que les disciples n'avaient pas envie à cette époque-là, à ce moment-ci, d'aller vers les non-croyants, les non-juifs, pardon. Mais ils le feront par la suite. Il dit donc « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et nous avons cette image donc reprise de Matthieu 9, verset 36, où Jésus fait ce constat que les foules étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus se sert souvent de l'image des brebis dans son enseignement pour parler du peuple de Dieu, en particulier pour décrire le peuple de Dieu dans la détresse. D'accord ? Les moutons ne sont pas particulièrement intelligents, et des gens qui ont passé beaucoup de temps autour d'eux ont constaté que les moutons sans berger ou lorsqu'on ne les surveille pas, ils se mettent dans tout plein d'ennuis. Et il dit, voilà la situation d'Israël. Et ça, c'est une image typique de l'Ancien Testament aussi. Par exemple, dans Jérémie 50, le verset 6, nous lisons « Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers, les égaraient, les détournaient par les montagnes, et elles allaient de montagne en colline en oubliant leur gîte. » Et ce problème systématique des mauvais chefs qui mènent à l'égarement des brebis, bon, la réponse de Dieu, ce n'est pas d'abandonner ou de baisser les bras, mais c'est d'aller les chercher ou d'envoyer des gens les chercher. Et avec plein de compassion ici, Jésus dit « Allez vers ces brebis perdues pour les ramener. » Quelle sera leur mission ? Bon, prêcher premièrement que le royaume des cieux est proche. Et ce message est très simple. Le royaume des cieux est proche est identique à celui que Jean-Baptiste a prêché et que celui que Jésus lui-même a prêché. Matthieu 3, versets 1 et 2. Voici le résumé de la mission de Jean-Baptiste. « En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, verset 17. « Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et maintenant, ces disciples qui, sans doute, ils ont entendu Jésus le prêcher, et il y avait probablement un grand nombre d'entre eux qui ont suivi Jean-Baptiste avant aussi, qui ont entendu Jean-Baptiste dire « Le royaume des cieux est proche », qui ont entendu Jésus le dire, maintenant Jésus leur dit « C'est à votre tour d'aller le proclamer. » Nous savons qu'ils ont aussi prêché la repentance, parce que Marc le mentionne dans le récit parallèle, quand ils sont partis, ils ont proclamé le royaume et la repentance, c'est-à-dire un changement de pensée, de comportement, non pas pour croire en Jésus, ce n'est pas encore le moment, mais pour se préparer à recevoir les promesses de Dieu par la fidélité et par les bonnes œuvres conformes à la loi de Dieu. Et donc les disciples sont appelés ici à faire comme Jésus. Et c'est toujours dans ce moment de préparation et d'appel pour le peuple. Ce qui est particulier ici, et quand on compare à d'autres mouvements messianiques de l'époque, c'est qu'ils ne vont pas de ville en ville pour recruter des soldats. Okay? Le roi est là, le Messie premier est là, on va recruter des soldats pour se battre contre les Romains. Non, ils ne font pas ça. Ils n'enseignent pas aux gens de lever des stocks d'armes pour préparer le combat, fortifier leur village ou autre chose. Non, mais simplement un message de repentance et de préparation du cœur pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Et chose aussi un peu surprenante, c'est que Jésus leur dit de faire les mêmes signes, les mêmes miracles que lui, il a fait aussi. Il va décrire donc ces différents miracles de guérir les malades, de chasser les démons, de purifier les lépreux et même de ressusciter les morts. Et l'autorité que Jésus a, il a non seulement l'autorité de l'exercer par des miracles, mais de le déléguer aux apôtres. Et Jésus va faire cela. Et nous voyons une fois de plus que les douze, une partie importante de leur mission, c'est de continuer le travail de Jésus et d'amplifier son travail. Jésus, c'est une personne, mais maintenant les douze, bon, c'est fois six probablement, parce qu'ils sont probablement allés en deux par deux, ou même fois douze le travail qui est là. Bon, très rapidement, il va leur donner maintenant des conseils sur comment ils doivent faire la mission. Ils doivent agir gratuitement. Ils ont ce pouvoir de faire des miracles. Mais ils ne doivent pas se dire, bon, maintenant que je peux faire des miracles, et Jésus n'est pas en train de me surveiller, je vais dire, bon, qui veut être guéri, c'est seulement 3 francs par personne. Okay. Pas de souci, si vous allez chez le médecin, c'est 1400 francs, mais pour moi, c'est pas cher, et ça me permet de couvrir mes dépenses, d'accord, dans le voyage. Non, ils doivent agir gratuitement, parce que les dons qu'ils ont reçus n'est pas pour eux, mais c'est pour les autres et pour la gloire de Christ. Et donc, ils ne peuvent pas gagner de l'argent par leur ministère. Ils ne peuvent même pas apporter de porte-monnaie avec eux. Ils ne peuvent pas amener de l'argent avec eux, mais ils ne pourront pas ramener de l'argent avec eux non plus. Les privilèges qu'ils ont reçus ne sont pas là pour eux ni pour s'enrichir. Ils ne doivent agir gratuitement et ne rien amener avec eux. Hein, Jésus va mentionner toute une liste de choses qu'ils ne doivent pas porter. Et il y a deux choses, il y a deux raisons que Jésus donne ces instructions. La première raison, qui est assez claire, c'est qu'ils doivent dépendre de Dieu dans leur mission. Ils vont partir, et ce n'est pas parce qu'ils se sont si bien préparés que la mission va être un succès. Ce n'est pas parce qu'ils ont appelé à l'avance pour réserver des Airbnb qui vont avoir un lieu où se loger. Mais c'est parce que Dieu les envoie à travers Christ, et c'est Dieu qui va prendre soin d'eux. On retrouve donc cet enseignement de Jésus de ne pas s'inquiéter du lendemain, n'est-ce pas? Ils sont appelés par Dieu, ils sont envoyés par Dieu et Dieu va prendre soin d'eux. Mais l'autre idée, c'est cette notion d'urgence. Ils doivent aller vite, la moisson est grande, les ouvriers sont peu nombreux. Le royaume des cieux est proche et ils doivent parcourir toutes les villes et tous les villages. Avec peu de temps à disposition, ils doivent partir tels qu'ils sont. Ils doivent laisser tout ce qui peut les ralentir et aller aussi vite que possible. Ils ne peuvent pas s'encombrer avec les choses de ce monde. Et ceci, donc, c'est pratique, mais c'est aussi prophétique. Imaginez que vous êtes dans un village et quelqu'un débarque qui est en train de parcourir toute la Galilée, mais il n'a aucun équipement d'un voyageur. Okay? C'est un pèlerin, mais qui vient sans tout le matériel, le bâton, les sandales supplémentaires, le sac à dos, le sac de cou. Il n'a rien. Il arrive juste habillé normalement, en train de parcourir et dire « le royaume des cieux est proche ». Et cela communique quelque chose pour les gens qui sont là. Non seulement que cette personne a la foi en Dieu pour s'occuper d'eux, mais qu'il est pressé, okay? Qu'il est vraiment en train d'essayer de prêcher aussi rapidement que possible, dans autant de lieux que possible. Et donc, c'est deux idées. Ils vont apprendre la dépendance en Dieu, mais ils vont aussi avoir un travail hâtif. Ils vont devoir prêcher rapidement. Et puis, finalement, donc, ils doivent demeurer dans une seule maison en amenant une salutation et la paix qui est là-bas. S'ils trouvent une maison digne, ne signifie pas s'ils trouvent une maison où ils pensent qu'ils vont être confortables et bien nourris. Être digne ici, c'est trouver des gens qui ont un cœur prêt à accepter que le royaume de Dieu est proche, à accepter avec foi l'accomplissement des promesses de Dieu. Et pour eux, ils amènent la salutation et la paix. N'oublions pas, la salutation ordinaire des Juifs, c'était donc shalom, d'accord? C'était que la paix soit sur vous. Jésus dit, ce ne sera pas juste des paroles pour vous, mais quand vous prononcez des paroles de paix, la paix sera dans cette maison. Et ils vont demeurer dans la maison. Et ça peut nous sembler particulier, pourquoi il dit, bon, restez dans une maison quand vous y arrivez. J'aimerais souligner ici, le but, ce n'est pas d'être plus efficace dans l'évangélisation, s'il reste dans une maison. La première chose, comme on a vu, c'est qu'ils sont pressés. D'accord? Ils ne vont pas rester dans un village et puis visiter toutes les maisons, mais plutôt, ils vont rester dans un endroit, puis se préparer et partir. Donc, il y a une certaine précipitation. Mais l'autre raison, qui peut-être ne va pas nous frapper, parce qu'on est assez aisé comme culture, mais ils ne vont pas profiter de leur visite. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un prédicateur du royaume arrive. on va l'accueillir. Le premier soir, qu'est-ce qu'on va leur nourrir? Bon, le meilleur repas, peut-être du poulet, peut-être on va servir de la viande, etc. Mais si la personne reste 2-3 soirs, bon, au bout d'un moment, dans ces villages qui sont extrêmement pauvres à l'époque, il n'y a plus le bon repas. Que fait un prédicateur qui est intéressé par ses propres envies, ses propres appétits? Bon, demain soir, je vais chez les voisins, ils vont me faire un bon repas, le soir suivant, chez la personne suivante. Et donc Jésus dit, n'allez pas de maison à maison. Et on voit ça vraiment dans l'évangile selon Luc. Si jamais, je ne vais pas lire, mais Luc 10, versets 7 à 8, il parle de nourriture en disant cela. Il dit, ne passez pas de maison en maison, mais mangez ce qu'on vous donne. Okay. De nouveau, pour nous, on peut nourrir la même personne 3 soirs d'affilée. Mais pour des gens pauvres, ça aurait été très difficile. Ils ne doivent pas profiter de l'hospitalité des gens, mais plutôt rester dans un endroit, prendre ce qu'on leur donne et prêcher la parole. Et finalement, donc, si on ne les accepte pas dans une maison ou dans la ville, la réaction, donc, c'est de quitter la ville et de passer à la suite, avec un geste prophétique une fois de plus avant. Secouer la poussière de leurs vêtements. C'est intéressant, il semblerait que quand les Juifs de l'époque retournaient des pays païens et ils arrivaient en territoire juif, ils secouaient la poussière de leurs vêtements avant d'entrer dans la terre promise. Et c'était une manière de se désolidariser avec les nations, avec les païens. Bon, Jésus dit, faites la même chose avec ceux qui refusent l'annonce du royaume. C'est un geste de rupture qui montre le jugement qui va tomber sur la ville incrédule. Et dans l'annonce du jugement, il dit donc Sodome et Gomorre seront traités moins sévèrement. L'idée, c'est pas que Sodome et Gomorre vont pas être punis pour leurs péchés. Hein. C'est des villes qui ont été jugées par Dieu dans la Genèse, au temps d'Abraham. Mais c'est plutôt que pour les Israélites qui ont reçu les promesses de Dieu et qui maintenant refusent l'accomplissement de ces promesses, il y a un jugement encore plus terrible qui va leur tomber dessus. Que ceux qui refusent l'invitation de Christ encourent donc un jugement qui est sévère. Alors voilà ce que Jésus dit. Voilà les ordres qu'il donne aux apôtres et voilà les raisons pour lesquelles il donne. J'aimerais juste faire quelques constats et puis quelques applications pour terminer. Déjà quelques constats, ce que Jésus n'a pas dit ici. Il n'a pas dit d'aller commencer des communautés de disciples dans ces différentes villes. Il ne s'agit pas ici de l'implantation de proto-églises dans les différentes villes, mais plutôt c'est une idée de proclamation pour annoncer aux Israélites qui ont besoin de l'entendre que Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Okay. La deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas censés prêcher que Jésus est le Messie et le Fils de Dieu. D'ailleurs, quand dans quelques chapitres, Pierre va dire « Tu es le Fils de Dieu, tu es le Messie », Jésus dit « Chut, dites à personne okay. ». Pour l'instant, ils ne prêchent pas Jésus. Ils sont en train de prêcher la venue proche du royaume. Okay. Et ceci devrait nous mettre en garde quand même de voir que Jésus ici n'est pas en train de nous donner une méthode missionnaire pour évangéliser les communautés non chrétiennes aujourd'hui ou des règles pour être suivies à tous les temps, à toutes les époques. Il y a absolument des principes à appliquer dans nos vies et à garder, ça j'en suis convaincu. Mais ne prenons pas ce texte en disant « voici Jésus, il dit comment faire de la mission dans le monde » parce que ça ne respecte pas du tout ce que Jésus est en train de faire avec les disciples. Ça se voit dans le texte, il va plus tard donner des instructions contraires. Au chapitre 10, verset 18, « Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs, devant des rois, pour leur servir de témoignage à eux et les païens. Okay. » Pourquoi est-ce qu'il dit des choses différentes? Parce qu'il va envoyer des disciples dans des missions différentes. Matthieu 28, 19, on a déjà mentionné, « Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Des consignes différentes parce que c'est un contexte différent. Même dans Luc 22, pendant le repas du Seigneur, Jésus dit à ceci aux disciples, « Avant, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et ils répondent non. Et Jésus leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même que celui qui a un sac, que celui qui en a un sac, et celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. » Donc, juste faisons attention, et je dis cela pas parce que je crois que c'est forcément un problème, mais on tombe parfois sur cet enseignement, je l'ai entendu plusieurs fois, où on prend ce texte et on dit, voilà, Jésus nous dit comment faire la mission. Si vous prenez des choses avec vous, vous vous trompez. Si vous essayez d'évangéliser plus qu'une famille à la fois, vous êtes en train de désobéir à Jésus. Et juste faisons attention avec cela, de vraiment respecter le but de l'enseignement de Jésus ici. Mais il y a des principes quand même à souligner. Premièrement, c'est que Jésus est l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël. Et ça, c'est vraiment important si on a Et il faut qu'on prenne cette habitude de lire l'Ancien Testament aussi. Pas juste rester dans les évangiles, même si c'est bien, ou les épîtres, ou les autres, mais de lire toute l'histoire. Et nous verrons que Dieu donne tellement de promesses à Israël, qui est son peuple élu et appelé. Et la bonne nouvelle des évangiles, entre autres, il y en a beaucoup, mais c'est que Jésus est l'accomplissement de ses promesses et que Dieu est fidèle. Je ne suis pas israélite, d'accord? À ma connaissance, je n'ai pas de souche juive. Mais c'est une bonne nouvelle pour moi de savoir que Dieu a gardé ses promesses à Israël en Jésus. Parce que s'il a été fidèle envers eux, je sais qu'il est fidèle envers moi. S'il a aimé en Jésus Israël, je sais qu'il aime en Jésus le monde entier. Et ça, c'est une source donc de joie et c'est une bonne nouvelle. Une autre chose que nous apprenons et qui est importante, c'est que les ministres de la parole, ils ont droit à une compensation pour leur travail, mais ils sont des serviteurs. Okay? Ils ne doivent pas profiter de leur situation. Je lisais un commentateur qui a dit « Il est normal que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile, mais il est aberrant qu'ils s'en enrichissent. » Et ça, c'est un problème humain. Okay? Quand on regarde l'histoire du monde et l'histoire de l'Église, nous voyons qu'une des tendances qui existe, c'est que ceux qui vivent de la parole, de s'enrichir de la parole. Et dès le début, quand Jésus forme et envoie les apôtres, quand il prépare les enseignants, les disciples, les missionnaires, il leur dit toujours de ne pas suivre ce chemin-là. Et il faut rappeler cela, parce que la tentation est toujours présente. Même au temps des apôtres, nous lisons dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 5, que Paul décrit ceux qui considèrent la piété comme une source de gain. Il y avait des gens qui se sont dit « bon, je peux m'enrichir dans l'Église ». Et Paul dit « ils ont l'esprit corrompu et ils sont privés de la vérité ». Plutôt, il faut suivre l'exemple que Pierre donne dans 1 Pierre 5, verset 2, qui dit « faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais de bon cœur ». Jésus donne clairement l'exemple et le besoin de soutenir ceux qui enseignent la parole, mais ce n'est jamais pour s'enrichir ou pour avoir une vie confortable. Et finalement, donc si on voit ces trois choses, Dieu garde ses promesses à Israël en Jésus, et c'est une bonne nouvelle que les ministres de la parole ont droit de gagner leur vie de cette manière, mais pas de s'enrichir. On voit une troisième chose aussi, c'est que ceux qui suivent Christ, les disciples de Christ, ont un message à transmettre et à partager avec d'autres. Et ça, on va voir un peu plus en détail la semaine prochaine, mais soulignons quand même cette réalité. Nous vivons dans une situation très différente. On n'est pas des Galiléens du 1er siècle qui attendent la venue du royaume. Nous sommes des chrétiens du 21e siècle qui croyons que Jésus a accompli les promesses de Dieu. Mais ça, c'est un plus grand message que le royaume des cieux est proche. Nous prêchons, le royaume des cieux est arrivé en Jésus-Christ. Et si le message était urgent à l'époque, le message reste urgent aujourd'hui. Nous sommes entourés de personnes qui cherchent Dieu, parfois sans même le savoir, et nous connaissons le chemin vers Dieu qui est Jésus-Christ. Et nous avons une responsabilité et un besoin de le partager avec eux. Donc l'urgence, la confiance, la paix, toutes ces choses qui faisaient partie de cette mission initiale sont toujours vraies dans nos vies. Et nous pouvons apporter un message de paix, de joie et d'espérance à ceux qui sont autour de nous. Nous devons, comme les apôtres, prier pour la mission. Nous devons partager avec ceux qui nous entourent la bonne nouvelle de Christ. Et nous devons aussi nous préparer, si on ne se sent pas à la hauteur, se préparer personnellement à évangéliser, à voir comment on peut parler de Christ autour de nous. Et si nous avons la conviction que pas tout le monde va nous écouter, il ne faut pas priver à ceux qui ont envie d'entendre l'occasion de connaître Dieu, de connaître la parole de Dieu. Je crois que les apôtres étaient surpris du bon accueil qu'ils ont reçu. Et je crois que nous aussi, si on ose parler avec ceux qui sont autour de nous, il y aura du rejet, il y aura du refus, mais nous serons aussi surpris à quel point les gens sont à la recherche d'une bonne nouvelle qui parle de Dieu. Parce que celui qui envoie, vous savez, rend capable d'accomplir la mission. Et ça, c'est notre confiance et notre prière.